Bonjour et bienvenue au colloque « L'altérité littéraire, écrire son rapport à l'autre ». Ce colloque de recherche émergente vous est présenté par l'AXL et La Cellule, deux associations étudiantes d'études littéraires de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous vous présentons « De la citation à la récitation, poétique de l'abondance référentielle et rapport à l'autre dans les essais d'Yvon Rivard » par Éric Bérubé, étudiant à la maîtrise en études littéraires. Rejoignez-nous sur Zoom le 25 septembre pour lui poser vos questions. Bonne écoute!
De la citation à la récitation, poétique de l'abondance référentielle et rapport à l'autre dans les essais d'Yvon Rivard. Ouvrir les guillemets. Un héritage nous échoit à chaque instant. Une communauté nous habite et nous hante constamment, même au sein de la plus grande solitude et du silence le plus profond. L'écrivain le sait, lui qui écrit en utilisant le langage dont il a hérité, en s'appropriant les mots et les pensées des autres, et qui, en créant une œuvre nouvelle, essaime ses mots et ses pensées partout autour de lui et dans le monde, comme une bouteille scellée que l'on jette à la mer. Oui, effectivement, personne n'est une île. Fermez les guillemets. Ces mots de Claude Lévesque, dans un texte portant sur le roman Le siècle de Jeanne d'Yvon Rivard, pointe vers ce qu'il y a de toujours déjà relationnel dans un texte littéraire. Ils expriment ce qu'une œuvre nouvelle doit aux mots et aux pensées des autres. D'ailleurs, la référence finale de cet extrait au recueil d'essais « Personne n'est une île » permet de réitérer cette interconnectivité tout en la dramatisant. Lévesque emprunte ses mots à ceux de Rivard, qui lui-même doit les siens à un poème de John Donne. L'on touche ici à un procédé essentiel de l'écriture essayistique, et ce depuis Montaigne à la Renaissance, c'est-à-dire le déroulement d'une pensée par l'entremise d'un foisonnement d'autres pensées. À cet égard, je cite Jean Starobinski dans son discours « Peut-on définir l'essai ?» Ouvrir les guillemets. Montaigne alléguait à sa guise, citant tour à tour, parfois sans les nommer, les auteurs qu'il avait lus. Il ne s'attachait à aucun, quitte à les comparer quand il y trouvait plaisir, pour évaluer en quelques paragraphes leurs mérites respectifs. Montaigne s'est servi de Plutarque, de Sénèque, sans écrire un livre, voire un chapitre sur le seul Plutarque, sur le seul Sénèque. Son esthétique est celle du mélange. Fermez les guillemets. À cet égard, l'œuvre essayistique d'Yvon Rivard opère un certain retour à une tradition montaignienne de l'essai. Du moins, si l'on considère avec Starobinski que, et je cite, « l'essai littéraire tel qu'il est coutumier de le pratiquer aujourd'hui emboîte généralement le pas à un seul écrivain, le suit dans son mouvement, s'installe dans sa conscience. » En effet, et Claude Lévesque, dans la citation que nous avons lue, le soulève efficacement, chez Rivard, la référence constante à d'autres penseurs et écrivains dans l'élaboration de sa pensée tend à exacerber cette caractéristique fondatrice de l'histoire de l'essai. Cela se consolide dans une véritable poétique de l'abondance référentielle qui semble structurer sa pratique de l'essai et élaborer un paradoxal rapport à l'autre. Son recueil « Personne n'est une île » est exemplaire à ce titre et sera ainsi l'objet de notre analyse. Sollicitation et responsabilité, de l'impulsion de la pensée dans le paratexte et la relation métatextuelle. Avant même d'entrer dans les essais à proprement parler, ce foisonnement référentiel, cette nécessité pour la pensée de Rivard de s'élaborer par et dans la relation, se laisse déjà discerner. Dans Personne n'est une île, cette poétique travaille dès le titre et les intertitres, dès le paratexte donc qui forme les seuils du recueil. D'abord, tel que déjà mentionné, le titre est une citation traduite d'un poème de John Donne, « No man is an island ». Ces premiers mots en majuscule sur la couverture ne sont donc pas d'Yvon Rivard, celui qui signe. De plus, une partie substantielle des intertitres et des titres d'essai reconduisent cette même exigence relationnelle, soit en l'énonçant à nouveau, soit en la performant par l'intertextualité, ou encore en annonçant un rapport métatextuel, donc de commentaire. Par exemple, le premier intertitre, « Sortir de chez soi », offre un rappel de la nécessité pour la pensée de ne pas s'isoler dans un moi. D'autres titres qui structurent le recueil en différentes parties ont aussi cette même fonction. L'héritage de la pauvreté, qui marque ici une filiation historique, et pourquoi penser? Question qui trouve sa réponse dans les premières lignes de l'essai. Je cite, « Parce qu'il y a en bas, couché sur le trottoir, juste en face de l'appartement où j'écris ces lignes, une femme sans abri, une victime parmi des milliers d'autres. » D'autres éléments paratextuels fonctionnent plutôt par la dramatisation du caractère relationnel de la pensée qui se crée. Pour ne citer que quelques exemples, « Les enfants de la lumière », qui est une citation de François Ricard, « Une chambre à soi », citation de Virginia Woolf, « Le dessin derrière la ouate », autre citation de Woolf, et « La découverte de la glace », qui est une référence à Garcia Marquez. Cette performativité de la relation à l'autre place le lecteur devant une œuvre problématique, puisque les éléments mêmes qui se chargent de structurer le livre et qui guident ainsi la lecture ne sont pas le fait de l'écrivain qui signe l'œuvre. D'ailleurs, Gérard Genette montre bien l'importance du paratexte à la lecture d'un texte lorsqu'il le définit comme, et je cite, « une zone indécise entre le dedans et le dehors, une lisière ou, comme disait Philippe Lejeune, frange du texte imprimé qui en réalité commande toute la lecture. » Enfin, il existe une autre manière de souligner la nécessité relationnelle de la pensée, c'est-à-dire en annonçant une relation de commentaire envers un auteur, donc une relation métatextuelle. Encore une fois, quelques exemples. Saint-Denis Garneau parmi nous, Jacques Brault, Poésie inaccomplie, Maison ouverte, et Miron et la métaphysique. Ces trois titres d'essai, par la simple mention de nom propre, annoncent une pratique de la lecture, donc de la rencontre d'une autre œuvre dont la pensée se charge d'éclaircir ou d'explorer. Concernant enfin les raisons d'être de ce foisonnement référentiel au sein du paratexte, il semble que dès son premier essai, Rivard nous offre certaines ressources pour l'appréhender. En effet, cette première partie fait office de contextualisation. Elle explique ce qui permet le recueil, ses circonstances. À ce titre, je cite la première phrase de l'essai. Tous les essais publiés dans ce recueil ont été écrits sur commande. La plupart pour des revues littéraires, les autres pour des colloques ou des collectifs m'invitant à réfléchir à ceci ou à cela. C'est donc de l'expérience de la publication commune dont il est question, en particulier de la revue, que Rivard définit comme suit, et je cite, « Une revue, c'est ce qui dérange l'écrivain, l'éloigne momentanément de son œuvre. » De fait, ce contexte de publication en revue permet de sortir de chez soi, expression qui titre l'essai. Il n'est ainsi pas sans intérêt de souligner que ce qui entoure et borde les textes, le paratexte que nous avons soulevé, fait écho aux mêmes circonstances qui encerclent, environnent et déterminent l'écriture. C'est qu'il semble que la pensée à l'œuvre dans ce recueil soit le résultat d'une certaine sollicitation. D'abord parce qu'elle est le fait d'une commande et ensuite parce qu'elle se forme grâce à certaines lectures. Cette notion de sollicitation, Antoine Compagnon, dans La seconde main, son travail sur la citation, la définit comme suit, je cite, « un ébranlement total et indifférencié du lecteur, un ravissement qui précède, comprend et occulte son attribution à une cause. » L'on retrouve ainsi avec la notion de ravissement cette idée d'une sortie de soi. Les deux formes de sollicitation que nous avons mentionnées, celle de la revue et celle de la lecture, se complètent et sont ainsi exigences de pensée grâce à l'autre, pour l'autre, avec l'autre et par l'autre. Le paratexte qui structure le livre et qui commande la lecture est ainsi un lieu privilégié de cette sollicitation qui ébranle, donc met en branle, en mouvement, l'écriture. La tension des contraires ou un héraclitéisme citationnel. Le mouvement d'ailleurs est ce à quoi réfère étymologiquement le mot « citation » qui vient du verbe latin « citare », signifiant entre autres « secouer, agiter, mouvoir, susciter ». Dans le corps de ses essais, Rivard cite abondamment. Le texte, résultat d'une sollicitation, est constamment relancé par la citation. Cette relance est analogue au processus qu'Antoine Compagnon nomme l'excitation. C'est tenter, je cite, « de reproduire dans l'écriture une passion de lecture, de retrouver l'instantanée fulgurance de la sollicitation ». La sollicitation, comme nous l'avons vu, est impulsion. Et c'est l'excitation de l'autre qui donne l'énergie de la création, qui forge une poétique. Au-delà de cette dimension motrice, ou plutôt en dessin ou en parallèle, le traitement de la citation au sein des essais de Rivard a quelques particularités qui ne sont pas anodines. Son nombre immense d'abord est frappant et son utilisation l'est d'autant plus, puisqu'elle mélange allègrement les penseurs et les époques au sein d'une même phrase. Ce sont ces éléments et ce qu'ils traduisent d'un rapport à l'autre qui nous intéressent dans cette partie de l'analyse. Moins, donc, comment la pensée se meut de sollicitation en excitation, plutôt que comment, dans sa manière de citer, Rivard met en acte ce que nous nommerons son héraclitéisme. Afin de comprendre toute la place que prend la citation dans la pensée de Rivard, son étendue, sa portée, il importe de préciser que très peu de pages dans ce recueil ne présentent aucune référence implicite ou explicite. Presque l'entièreté de ces 250 pages mobilise des citations d'autres textes. Dans certains essais, à certaines pages, la densité d'intertextualité est tout à fait vertigineuse, et c'est particulièrement à la lecture de ces passages que l'on peut appréhender la force créatrice, donc la poétique, de l'abondance référentielle dont il est question. À titre d'exemple, je cite Rivard en prenant soin de bien soulever les guillemets qui explicitent les citations. Ouvrir les guillemets. Cette découverte du temps qui passe et ne passe pas, cette, entre guillemets, extrême fixité des choses qui passent, entre parenthèses Wolf, Théodore l'approfondira surtout en Allemagne parce que, entre guillemets, l'allemand est le langage de la mort. Fermez les guillemets. Cet essai, La naissance d'un écrivain, est en partie dédié à la lecture croisée des Cahiers de Malte de Rilke et de Mater Europa de Jean-Étienne Blais. Le passage précédent montre comment Rivard trouve les mots de sa lecture dans ceux d'autres écrivains et penseurs, Virginia Woolf dans ce cas-ci. Ce qui étonne, c'est que de trois voix, celle de Rivard, celle de Woolf et celle d'Étienne Blais, se construit une seule phrase tout à fait fluide qui mine l'individualité de chacune d'elles en les rendant poreuses. De fait, dans ce genre de passage assez fréquent dans Personne n'est une île, se perd à la fois l'origine du jeu de l'essayiste ainsi que celui des écrivains cités. À cet égard, la pratique citationnelle d'Yvon Rivard a quelques affinités avec celle de Maurice Blanchot, écrivain souvent cité dans Personne n'est une île, puisque, comme l'indique Éric Opinot dans son texte dédié à la citation chez Blanchot, et je cite, « Blanchot ne se contente pas de copier les citations les unes à la suite des autres, il les agglomère. » En d'autres termes, et je cite encore, « Il compile des citations appartenant à des extraits de livres qui sont fréquemment distants, sans que soient indiquées les diverses références aux pages. » L'on retrouve chez Rivard cette même tendance blanchotienne à ne pas mentionner les pages et les ouvrages d'où viennent les citations, et à faire se compléter des passages qui ne se suivent pas ou des auteurs qui ont peu en commun. Il est possible de comprendre ce qui est en jeu dans cette intertextualité grâce à certaines idées qu'Yvon Rivard lui-même développe dans ses essais. Nous verrons en effet que cette pratique peut être appréhendée comme une mise en acte dans l'écriture d'un héraclitéisme propre à Rivard. La dimension de la pensée d'Héraclite dont il est question ici et qui n'est en aucun cas l'entièreté de celle-ci concerne la contradiction. Je cite Jean Voilquin à ce propos. L'opposition des contraires est à la fois condition du devenir des choses et en même temps principe et loi. L'état de stabilité, de concorde et de paix n'est que la confusion des choses dans l'embrasement général. C'est cette nécessité du mélange des contraires dans l'équilibre du monde qui constitue la part héraclitéenne de la pensée de Rivard et que ce dernier revendique par des citations explicites à ce pré-socratique. Et je cite « Héraclite avait perçu dans une même loi aussi bien le secret de la création que celui de l'amour. Deux points, entre guillemets, ce qui est contraire est utile et c'est de ce qui est en lutte que naît la plus belle harmonie. » Dans cette seule phrase, tout un pan du fonctionnement de la pensée de Rivard est en germe. En effet, même lorsqu'il ne mentionne pas explicitement Héraclite, l'essayiste opère souvent par opposition qu'il tente de réconcilier en soutenant la tension entre ses contraires. Plusieurs essais ou fragments d'essais dans Personne n'est une île sont ainsi constitués par un schéma d'opposition dont voici quelques figures. Le terrien et l'extraterrestre, le réel et l'irréel, le soi et l'autre, le fini et l'infini, le chat et le chien, le poète et le romancier. Il y aurait une analyse importante à faire de cette mécanique réflexive, car oui, par la répétition du même schéma, celui-ci prend la consistance d'une mécanique. Mais celle-ci demanderait beaucoup trop de temps et d'espace dans le cadre de cette communication. Il suffit seulement d'en saisir l'idée générale et de témoigner de sa présence pour pouvoir enfin, et c'est ce que nous allons faire, en évaluer un cas déjà soulevé par Silvano Santini dans son article « L'action intelligente d'Yvon Rivard » et qui a son effectivité dans le traitement de la citation, soit la tension entre le « moi » et le « monde ». Cette opposition à soutenir entre le « je » personnel et le monde extérieur se voit énoncée à plusieurs moments dans « Personne n'est une île ». Par exemple, dans le premier texte, il est question de ne pas, et je cite, « condamner ce fameux « moi ». Mais de tout de même, et je cite, « s'éloigner de son œuvre pour s'exposer au monde en dehors de ma maison ». Un peu plus loin, dans le chant des muets, il est aussi question d'une, et je cite, « communauté d'êtres solitaires ». Paradoxe qui rappelle différemment l'idée d'une tension entre un moi qui est distinct et la nécessité de se relier aux autres dans une communauté. Le foisonnement référentiel qui fait cohabiter une variété d'auteurs qui rend poreux le moi et l'autre, permettant ici une communication, peut se comprendre grâce à cette tension. C'est que, et je cite Santini, l'essayiste met sa pensée en jeu dans le monde vaste de l'expérience en mêlant sa voix à de multiples autres. Cela indique bien, comme le souligne Santini, que pour Rivard, la réflexion ne doit pas se perdre dans les brumes du moi, mais offrir à l'individu l'occasion de se mettre en contact avec le monde et le réel, avec autrui également. Il est donc possible de voir dans cette poétique de l'abondance référentielle une tentative de concilier deux contraires, donc une performativité de la dimension héraclitéenne de la pensée de Rivard que nous avons soulevée. De la citation à la récitation, quand se perd l'altérité. Ainsi, l'écriture essayistique d'Yvon Rivard dans son traitement de la citation traduit un véritable effort pour aller vers l'autre, pour penser avec l'autre. En effet, autant dans le paratexte que dans le texte, il est possible de percevoir une pensée qui se construit par la sollicitation et le souci d'une tension entre le moi et l'autre. Cependant, les choses sont plus délicates qu'elles n'y paraissent en ce qui concerne l'altérité. La citation n'est pas simple dans le rapport à l'autre qu'elle institue et le foisonnement référentiel qui fait l'objet de notre analyse ne semble que foisonnant au premier abord. Plus l'on entre dans le texte, plus la lecture creuse l'épaisseur des pages jusqu'à la quatrième de couverture et plus le travail de citation de Rivard semble devenir récitation. D'abord, il n'est pas inutile de préciser que la citation en elle-même, et ce indépendamment d'Yvon Rivard, a quelque chose de problématique. C'est que, comme l'indique Éric Opneau, paradoxalement, la citation ne rend pas compte de l'œuvre, mais manipulée, asservie à la parole critique, elle s'expose à la trahison du texte dont elle est extraite. Citer consiste donc à pratiquer une sorte d'exérèse en prélevant une parcelle du texte à la manière d'une biopsie pour ensuite l'analyser. Cette même métaphore chirurgicale se retrouve chez Antoine Compagnon, et je cite « Lorsque je cite, j'excise, je mutile, je prélève. Le fragment élu se convertit lui-même en texte, non plus morceau de texte, membre de phrase ou de discours, mes morceaux choisis, membres amputés. » Lorsque l'on dit donc que Rivard tente de soutenir une tension entre son « je » et les paroles des autres grâce à la citation, il est possible de questionner l'effectivité de la chose, de se demander si, au fond, il n'est pas surtout question du « je » de Rivard qui plie les mots d'autres auteurs pour qu'ils correspondent à sa pensée. Une particularité supplémentaire dans son traitement de la citation tend à confirmer une telle hypothèse. En effet, l'on peut observer que les textes reconduisent les mêmes citations des mêmes auteurs et tendent donc à créer un univers référentiel plutôt fermé qui se répète lui-même. Opneau l'indique efficacement lorsqu'il écrit que, je cite, « Si d'ordinaire la citation est une sorte d'étincelle qui peut raviver le discours, la citation outrancière, répétitive, aurait un effet mortifère sur sa propre signification. » Ce phénomène est présent dans l'économie générale de Personne n'est une île, mais il prend une toute autre ampleur à l'échelle de plusieurs recueils. Une certaine constellation d'écrivains est constamment mobilisée par Rivard, Virginia Woolf, Peter Handke et Hermann Brock. D'autres se voient de même assez fréquemment cités, Kafka, Goethe, Héraclite et Rilke par exemple. De plus, certaines citations peuvent se répéter une multitude de fois dans un recueil. Par exemple, la formule de Virginia Woolf, « l'extrême fixité des choses qui passent », se répète au moins 5 fois dans Personne n'est une île et est aussi présente dans d'autres recueils de Rivard. Il y a bien sûr d'autres exemples, mais une simple énumération des citations qui sont répétées ne serait aucun apport véritable. Il faut donc plutôt comprendre comment ce bagage de références récurrentes sert de lieu à partir duquel Rivard pense et rencontre. En effet, son essai sur Hector de Saint-Denis-Garneau, par exemple, mobilise Rilke, Brock et Héraclite comme des clés de lecture. Celui sur Gaston Miron propose une plus grande variété, mais les principales références sont tout de même Brock et Woolf. Il est donc souvent question des mêmes auteurs, des mêmes œuvres de ses auteurs et des mêmes mots tirés de ses œuvres. C'est à partir de ce bagage toujours latent que Rivard rencontre et lit d'autres textes. De fait, les conséquences de cette pratique se font sentir dans le rapport à l'autre, donc aussi dans la motricité de la pensée. C'est à ce moment qu'il faut réinterroger l'étymologie du mot « citation » que nous avons souligné plus tôt. Il semble que lorsque la citation devient « récitation », elle perd son mouvement et commence à faire s'enliser le rapport à l'autre. Le philosophe helléniste et sinologue François Julien, qui est justement titulaire d'une chaire de recherche sur l'altérité, offre certaines ressources conceptuelles fort utiles pour appréhender ce glissement que nous observons chez Rivard. C'est qu'il faut voir ce qui se joue dans l'écart qui existe entre la rencontre et la relation. Je cite François Julien à ce propos. Dans la rencontre, il s'agit de s'ouvrir à de l'autre, mais que cet autre reste autre, qu'il ne soit pas aliéné. La rencontre permet, et je cite, « d'entrer en rapport à l'autre sans qu'il y ait pour autant intégration et par conséquent perte de l'autre. » C'est en quoi la rencontre est bien le contraire de la relation. Et je cite encore une fois Julien, « dans la relation se défait la rencontre, puisqu'elle intègre l'autre, et la rencontre découvre l'autre. » Bref, il semble que ce qui est en jeu dans cet écart de la rencontre et de la relation soit la préservation de l'altérité, qui est précisément le caractère autre de l'autre. Ainsi, lorsqu'Yvon Rivard répète les mêmes citations dans Personne n'est une île et à travers ses différents recueils, lorsqu'il mobilise toujours le même cadre référentiel à partir duquel il lit le monde et les textes d'autres auteurs, il semble que la logique à l'œuvre soit celle de la relation plutôt que de la rencontre. D'une part, parce que les Virginia Woolf et Herman Brock de ce monde perdent leur altérité dans la répétition, et d'autre part, parce que les rencontres d'autres auteurs sont souvent ramenées à du connu, à du même. Pensons aux exemples de Garneau et de Miron. C'est en quoi le rapport à l'autre qui se laisse appréhender par le travail citationnel de Rivard est tout à fait paradoxal. L'exigence d'être avec l'autre est aussi ce qui fait perdre l'autre. Une piste de compréhension peut se lire sous la plume de Rivard lorsqu'il écrit que le but de l'écriture, de la pensée, de l'art et de leur ébranlement, c'est de travailler, et je cite, « à restaurer le monde, à mettre en branle vers une fin qui ne peut être que la transformation improbable de la laideur, du mal et de la mort, au contact de la beauté, du bien et de la vie. » C'est peut-être en raison même de ce dualisme où l'un des contraires est supérieur à l'autre que l'on peut voir la citation devenir un outil pour justement ramener l'autre à son contraire supérieur qui serait le même. Cependant, et pour terminer, il ne faut pas croire que les essais de Rivard ne sont jamais le théâtre de déstabilisation propre à la rencontre. En fait, l'essai dédié à Jacques Brault, que l'on peut lire dans « Personne n'est une île », offre quelques moments de résistance où l'on sent la pensée de Rivard travaillée et mise à l'épreuve, et même déçue par une œuvre qui échappe. Je cite « Comme toujours lorsque je suis perdu, je demande à la littérature un chemin. Ainsi en ai-je voulu à Brault de me refuser ce chemin, ou pire, de m'en donner 100 pour les retirer aussitôt. » La déception est ici un autre nom pour l'incapacité d'intégrer un texte dans la relation. C'est donc que la rencontre est encore possible.
Rendez-vous pour la prochaine communication « Tisser des liens par l'épistolaire dans Chuny » de Naomi Fontaine par Aude Meunier-Rochon, étudiante à la maîtrise en études littéraires. À bientôt! C'était Rachel Gagné à la narration et au montage. Merci de votre écoute.